Alors aujourd'hui, on va parler, pour terminer ces cours sur Pessah, on va parler d'expliquer comment est-ce que un homme devient un homme libre par la Torah. En disant dans le Midrash, dans la Gemara, Elcha ben Chorin, Ela Mishosek Batorah. Celui qui est l'homme libre, qui est l'homme libre par excellence, eh bien c'est celui qui étudie la Torah, qui accomplit les mitzvot dans leur totalité. Top. Alors, on va expliquer cela, c'est-à-dire que, puisqu'en effet on parle, on a expliqué sur plusieurs facettes en quoi consiste le chibou de l'esclavage, être asservi. On a expliqué par rapport aux avérotes, par rapport aux vices, aux défauts, etc. On a aussi expliqué qu'il faut non seulement cela, il faut non seulement être libéré de ses défauts et ses avérotes, mais il faut aussi élever le plafond de ses ambitions, aspirations spirituelles et morales dans plusieurs domaines, bien plus qu'on ne peut imaginer. Et parce qu'en effet, mettre nos ambitions à un plafond très bas, c'est un chibout, c'est un asservissement, c'est un esclavage. On est limité dans notre espoir, dans notre ambition. Et là aussi, n'est-ce pas, on doit, Pessah, élever notre ambition spirituelle à des niveaux très élevés. Top. Alors, à ce sujet-là, la question se pose. C'est que bon, on dit que lorsque on fait la Torah et les mitzvot, c'est là on devient des hommes qui sont vraiment libres, ben chorim. Alors que, a priori, on peut imaginer que ce n'est pas le cas. Parce qu'en effet, lorsqu'on vient respecter la Torah, alors bon, on est comme barricadé, emprisonné par 613 mitzvot. On a en effet 248 obligations, ainsi que 365 interdictions. Alors comment considérer, comment expliquer qu'en effet, il y a une chéroute, une liberté dans cette Torah? Mis à part cela, il faut aussi se rappeler que le but essentiel de la Yetzirat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah. En effet, eh bien, Hachem avait déjà dit à Moshe d'Israël Israël qu'il sortait d'Égypte pour recevoir la Torah 49 jours après, le 50e jour, derrière nous aussi chaque année. Eh bien, c'est le compte du Omer Sfirat Omer. On compte 49 jours depuis Pessah, depuis le lendemain du premier jour de Pessah, jusqu'à Shavuot, pour recevoir la Torah. Donc en fait, c'est pas ce que. D'ailleurs, c'est aussi écrit que c'est comme une entité en soi, Pessah et Sfirat Omer et Shavuot. Comme on a aussi une entité entre Sukkot, les 7 jours de Sukkot et Shemini Atzeret, mais on a aussi une entité entre les 7 semaines qui sont entre Pessah et Shavuot. D'ailleurs, dit le Ramban que ces 7 semaines ont la Kdusha de Chol HaMoed. C'est-à-dire que Shavuot, c'est encore une fête qui vient clôturer la fête de Pessah. Comme Shemini Atzeret, Simchat Torah, vient clôturer la fête de Sukkot, eh bien, Shavuot vient aussi clôturer la fête de Pessah. Et entre les deux, c'est comme si on a 7 semaines qui sont comme 7 jours de Chol HaMoed. C'est-à-dire qu'ils ont une kedusha qui est comparable à celle de Chol HaMoed. Il est évident que, du point de vue halakhique, c'est différent tout de même. Mais dans l'importance de ces journées-là, c'est aussi important que Chol HaMoed. Top. Donc on voit bien qu'il y a une entité qui est formée entre la fête de Pessah et Shavuot. Donc le but de Tzemit Zraïm, c'est d'être Ben Chorim, un homme libre, pour recevoir la Torah, puisqu'en effet, être un homme libre par excellence, c'est lorsqu'on reçoit la Torah. Alors comment expliquer cela? Comment est-ce que tu deviendras un homme qui va être libéré par cette Torah? Enfin, pourquoi est-ce que tu me dis que si tu es emprisonné par tes avérotes, par tes vices, par tes défauts, si tu es maîtrisé par ton habitude quotidienne, alors tu n'es pas un homme libre. Alors pourquoi n'est-ce pas lorsque je suis dirigé, barricadé, structuré par toutes ces interdictions et obligations de la Torah, eh bien on va appeler ça un homme libre. Alors pour cela, Rabotai, on va citer tout d'abord ce que dit le Ramchal. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lotzato, dans son livre Derech Etzraim. Alors bon, son livre le plus connu, c'est Misat Yesharim, mais il a aussi écrit un livre qui s'appelle Derech Etzraim, qui se trouve en général à la fin de Misat Yesharim. Alors le Ramchal dit la chose suivante. Vezetir'e kishnaim hem bitchuna achat nivraou sechel adam va Torah hamaskelet oto. Qu'est-ce que dit le Ramchal ici? Que tu peux te rendre compte, prendre conscience que la Torah et l'esprit humain ont été créés a priori de prime abord, bitruna achat. Bitruna achat voudrait dire dans une même, avec les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils sont adaptés l'un à l'autre de façon parfaite et adéquate. Alors, je viens à un des commentaires qui explique la chose suivante. C'est comme si on va mettre dans un récipient un liquide ou un objet, et cet objet, il va avoir exactement la forme qu'a le récipient. Alors, quand on met un liquide, n'est-ce pas, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que le liquide, il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. Eh bien, nous dit Ramchal, c'est pareil aussi pour la Torah et notre esprit. Hachem a créé, a priori, cette Torah et notre esprit. Alors, je rappelle que l'esprit, n'est-ce pas, c'est aussi un échemin, on va en parler tout de suite. Eh bien, avec des mêmes caractéristiques, de telle façon qu'ils sont comme emboîtés l'un dans l'autre, c'est-à-dire que c'est comme, n'est-ce pas, si cette Torah, c'est une lumière divine spirituelle qui vient s'introduire, s'encastrer, s'emboîter dans notre esprit, dans notre neshama, et l'emboîtement, il est parfait, il est adéquat, il coïncide à 100%. Et c'est pourquoi le Ramchal dit aussi, dans ce même livre, que Hachem a créé l'être humain. Yotzera Adam, Umanigo, Wasa, Wechanu, Mukhan, Lavin, Ulaskil, Askalak, Dola, Yoter, Mimalaché, Acharet. Hachem a créé a priori l'être humain avec des caractéristiques qui peuvent lui permettre d'accéder à une sagesse et une connaissance qui dépasse celle des Malachim, qui dépasse celle des anges. Okumamu, Rabotenu, Bamidrash, Amalem, Chochmato, Meruba Mishelachem. Lorsque Hachem a créé Adam Rishon, il a dit aux anges, eh bien, sa sagesse, son savoir, ses connaissances dépassent les vôtres, vous les Malachim, vous les anges. Bon, entre parenthèses, on a perdu cela par la faute d'Adam Rishon. On a perdu beaucoup de ce niveau spirituel, de ses connaissances. Alors, je rappelle entre parenthèses que lorsqu'on parle d'Adam Rishon, il ne faut pas s'imaginer, se dire, bon, pourquoi est-ce que lui l'a fauté, nous, on doit payer les pots cassés. Non, c'est pas ça. Adam Rishon, c'est nous. Parce que toutes nos neshamot étaient dans Adam Rishon. Adam Rishon, c'était comme une personne gigantesque qui comprenait toutes nos neshamot, toutes nos âmes. Et lui a fauté, pas nous, on a fauté. Et ensuite, Hachem a comme dispersé ses âmes, n'est-ce pas, en des millions d'âmes dans le monde entier pendant 6000 années pour réparer cette faute gigantesque qui a été commise. Donc, mais a priori de prime abord, Hachem nous a créé Adam Rishon avec une chokhma, une sagesse qui dépasse celle des malachim, celle des anges. Et en effet, j'aurai un autre sujet, que eh bien, cette Torah, elle est adaptée de façon parfaite. Elle coïncide, elle est adéquate à notre esprit, à notre neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je rappelle, on a dit plusieurs fois que notre corps est habité par une âme. Mais cette âme qui a plusieurs parties qui s'appellent Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la partie la plus basse de l'âme. C'est écrit dans Nefeshrim, elle réside notamment dans les parties du corps qui sont le sang et le foie. Ruach, c'est une partie intermédiaire qui est plus élevée que Nefesh. Elle réside notamment au niveau du cœur. Et Neshama, la partie la plus élevée de notre âme, qui réside surtout au niveau de notre esprit, de notre cerveau. Mais là aussi, les Nefesh HaRaim, c'est uniquement la partie antérieure, la partie la plus petite qui réside dans notre cerveau. Alors que la grande partie de cette Neshama, eh bien, elle est comme au-delà de nous. C'est comme, on pourrait dire, on pourrait comparer cela à un fil spirituel conducteur qui nous relie au monde céleste. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image, n'est-ce pas, c'est une réalité. Alors donc lorsqu'on parle de cette Neshama, c'est la partie la plus élevée de notre âme. Et Hachem a créé notre Neshama, qui elle, donc sa partie antérieure réside, n'est-ce pas, dans notre cerveau. Cette Neshama est liée à la partie qui s'appelle Ruach. Ce Ruach est lié à la partie qui s'appelle Nefesh. Et cette Nefesh, n'est-ce pas, évidemment, est liée à notre corps, attaché à notre corps humain. Maintenant, la Torah, a priori, elle a été créée de façon qu'elle est adaptée de façon parfaite et idéale à notre esprit, à notre neshama, ainsi qu'à notre cerveau, à notre esprit. Ça veut dire que tout d'abord, du point de vue de la connaissance, c'est une connaissance qui est tout à fait adaptée à notre compréhension. Comprendre la Torah, Savoir la Torah, c'est quelque chose qui est a priori adapté à nous, parce qu'a priori, c'est emboîté l'un dans l'autre. Deuxièmement, de par la Neshama. Et là, ce qu'on va expliquer. De par la Neshama, c'est-à-dire de par notre conduite, la conduite de l'être humain. Parce qu'on avait parlé plusieurs fois que, bien qu'on a l'impression qu'il existe, il y a un paradoxe entre le corps humain et l'âme. Puisqu'en effet, le corps, il est en général tiraillé par les instincts, par les passions, par les envies, les plaisirs, les loisirs de chaque génération. Alors que la Neshama, l'âme qui est spirituelle, elle est plutôt attirée par les mondes spirituels célestes. Et donc on pourrait considérer qu'il y a un paradoxe entre les deux. Mais en fait, on peut réaliser, on peut trouver cette harmonie entre l'âme et notre corps. Maintenant, gérer, n'est-ce pas, gérer cette cohabitation entre le corps et l'âme pour arriver à cette harmonie, eh bien, comment est-ce qu'on peut le gérer, comment est-ce qu'on peut le réaliser? Eh bien, c'est la Torah qui va nous permettre de le réaliser. Cette Torah qui est adaptée à nous de façon parfaite. Elle pourra te conduire, te diriger pour trouver, pour créer cette harmonie entre le corps et l'âme. Le corps humain, dans la Gemara, Sanhedrin, Sayyitet, le corps humain est comparé à un homme qui est aveugle, alors que l'âme est comparée à un homme qui est boiteux. C'est-à-dire quoi? Que le corps humain, il ne voit pas les choses et les éléments de façon objective, et de façon réelle et véridique. Pourquoi? Parce qu'il est faussé par son intérêt personnel, par son envie, par sa passion, par l'intérêt, par le bénéfice, etc. Et donc, n'est-ce pas, il a tendance à tout fausser, à ne pas voir qu'est-ce qui va être bon ou mauvais pour lui. Il est intéressé uniquement par le plaisir immédiat. Alors que l'âme, elle est clairvoyante, elle est objective, elle voit, n'est-ce pas, tout ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est que dévoiler les capacités de l'âme, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Comment pouvoir faire jaillir cette neshama, ces facultés, ce n'est pas facile parce que très souvent, elle est comme étouffée, encastrée dans le corps humain. Et il faut pouvoir, n'est-ce pas, arriver à la découvrir, à la cerner pour en effet lui faire jaillir ses facultés. Top. Mais lorsqu'on arrive plus ou moins à réaliser cela, et bien automatiquement, la neshama, c'est elle qui prend de l'ampleur, qui prend le dessus sur le corps humain. Alors, ce qu'il y a la neshama, elle est clairvoyante, elle est objective, mais elle a un problème parce qu'elle ne peut pas agir, elle est comme boiteuse. Parce qu'en effet, la neshama ne peut pas toute seule faire ni la tefila, ni manger la matzah, ni être dans la souka, ni étudier la Torah. Toutes les mitzvot, c'est le corps qui les réalise. Donc en fait, chacun, il a un avantage, un inconvénient. La neshama, elle est objective, elle est clairvoyante, mais elle ne peut pas agir sans le corps. Le corps, c'est lui qui agit. C'est lui qui concrétise les choses. Mais le corps, n'est-ce pas, il n'est pas objectif, il est subjectif, il voit, n'est-ce pas, uniquement ce qui est dans le plaisir immédiat. C'est pourquoi, pour créer cette harmonie entre le corps et l'âme, eh bien, il faut donner à chacun d'entre eux sa partie qui lui convient, donner à chacun sa mission personnelle et qu'il puisse réaliser sa mission de façon parfaite. C'est-à-dire que le corps, c'est lui qui doit réaliser, qui doit agir. Mais c'est l'âme qui doit diriger les opérations. C'est l'âme qui doit maîtriser le corps humain et donner des directives au corps. Il ne s'agit pas d'écraser le corps, de le refouler, de le mettre de côté. Il faut en effet lui donner une importance, il faut le respecter, l'honorer. Mais le corps doit être dirigé, maîtrisé par notre âme, par l'Neshama. Et c'est là où on peut trouver cette harmonie entre le corps et l'âme. Et cela comment? Comment est-ce que la Neshama va diriger notre corps? Eh bien, lorsque cette Neshama, elle est éclairée par la Torah, comme on l'a dit auparavant, puisqu'en effet, il y a une coïncidence, pas une coïncidence parfaite entre la Torah et la Neshama qui réside dans notre esprit. C'est-à-dire que cette Torah, elle va éclairer notre Neshama, va éclairer notre esprit, et automatiquement, de par l'éclairage qui est donné par la Torah à la Neshama va diriger les opérations et conduire le corps humain. Et c'est là où on pourra trouver, créer cette harmonie entre le corps et l'âme. Alors, pour revenir au sujet précédent, pourquoi est-ce qu'un homme qui est tiraillé par ses instincts, par ses passions, ses vices, ses défauts, par la violence en général, cet homme-là, il n'est pas un homme libre. Pourquoi? Parce que cet homme-là, eh bien, comme on l'a dit, il est tiraillé de part et d'autre. Il est prisonnier, une seconde, il est prisonnier de ses vices, de ses défauts. Il n'a pas, n'est-ce pas, une ligne de conduite bien déterminée, bien réelle. Même s'il a une ligne de conduite, ce n'est pas une ligne de conduite qui est fixée par un repère qui va être divin et spirituel comme la Torah, une lumière divine spirituelle, mais il est tiraillé du jour au lendemain, au gré du vent, au gré du temps, par ses passions, ses instincts. Il est baladé à droite, à gauche, un jour comme ci, un jour comme cela. Cet homme-là, il n'est pas un homme libre parce que chaque fois, il dépend de ses vices, de ses défauts, et surtout, surtout parce qu'en effet, ses problèmes instinctifs et ses vices qui le possèdent, qui le maîtrisent, qui le dirigent, eh bien, ce sont des éléments et des caractéristiques qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas spirituels et moraux et véridiques. Mais ce sont des tentations du corps qui, en effet, lui est intéressé par l'intérêt, par le plaisir immédiat. Alors que lorsque la Neshama, elle est éclairée par cette Torah qui est divine et qui est spirituelle. Et comme dit le Ramchal, la Torah et l'esprit humain ont été créés dans des mêmes caractéristiques. C'est-à-dire que tu peux emboîter l'un dans l'autre, eh bien l'emboîtement, il est parfait, il est idéal, il est adapté. Alors automatiquement, on peut trouver, on peut créer cette harmonie entre le corps et l'âme grâce à cette Torah qui va nous éclairer. Dit le Midrash dans Shmot Rabba Perek Kaftet. Après Matan Torah, eh bien, les Bnei Israël ont été élevés par le don de la Torah. Maintenant, ils ont reçu la Torah. Mais comment est-ce qu'ils ont reçu la Torah? Parce qu'en effet, il y a des différences, des divergences. Il y a des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont jeunes dans Israël. Ils étaient environ 3 millions. Il y a des hommes, des femmes, des enfants. Il y a des génies, des érudits. Il y a des gens qui sont simples d'esprit. Alors comment est-ce que Hachem a donné cette Torah à un peuple entier de la même façon? Quand on fait des cours en général, eh bien, à plusieurs niveaux. Pas donner le même cours à chacun. Eh bien, en effet, c'est une des forces inouïes, infinies d'Hachem. Dit le Midrash, Kol Hachem Bakoar. On le dit, c'est écrit dans Télim, on le lit tous les vendredis soirs, dans le Mizmor et David, Kol Hachem Bakoar. Dit le Midrash, ce n'est pas écrit Kol Hachem Bekoho. C'est-à-dire que la voix d'Hachem, eh bien, elle a été véhiculée dans la force. Bakoar dans la force. Dit le Midrash, ce n'est pas écrit Bekoho dans sa force personnelle. C'est-à-dire qu'Hachem a donné la Torah, non pas avec sa force, selon sa force personnelle, parce que si c'était le cas, eh bien, on n'aurait pas pu recevoir cette Torah, parce qu'on n'a pas les cordes, n'est-ce pas, les capacités de pouvoir recevoir, de pouvoir supporter cette force infinie d'Hachem. C'est pourquoi c'est écrit Kol Hachem Bakoach, Bekocho Shel Kol Echad Vechad. Hachem t'a donné cette Torah. Et Hachem continue à te donner cette Torah tous les jours, Bekocho Shel Kol Echad, selon ta force physique, ta force intellectuelle, morale et spirituelle. Abachorim Lefikocham, Vaskenim Lefikochan, Vaktanim Lefikochan, soit les jeunes, les plus âgés, etc. Chacun selon ses facultés, selon ses capacités. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette Torah, eh bien, Hachem, il l'adapte à nous. D'ailleurs, quand on reçoit la Torah chaque année à Shavuot, et aussi on reçoit la Torah tous les jours, c'est ça qu'on dit en Birkat Torah, on dit, Baruch HaShem, t'as Hachem, noten HaTorah. Hachem, tu nous donnes la Torah. On dit pas Natan HaTorah. Hachem a donné la Torah il y a 3300 ans. Mais il donne la Torah tous les jours. C'est-à-dire que Hachem, eh bien, il va adapter cette Torah dans n'importe quelle situation que tu te trouves. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut être un grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu lui aussi devait se préparer au don de la Torah. Lui aussi, il a reçu la Torah. Moshe à son niveau. Aaron aussi, les Zkenim, les Kohanim aussi. Et les gens qui sont loin de la Torah, eh bien Hachem, c'est comme s'il va, n'est-ce pas, il va faire descendre sa Shrina, pas il va amener, il va faire résider sa présence divine, eh bien, dans le monde entier, sur Israël, pour te donner la Torah et t'élever dans n'importe quelle situation que tu sois. Concrètement, ça veut dire quelqu'un, même s'il est loin de la Torah, même s'il est plein de Averot, même si quelqu'un vient de faire des Averot le jour même, Lorsque Hachem donne la Torah, eh bien, il peut t'élever. Il peut t'élever de n'importe quelle situation dans laquelle tu étais. Il t'élève, c'est comme s'il se baisse, il s'adapte à ton niveau pour t'élever et te soulever à un niveau spirituel plus élevé. Alors que tu sois à un niveau très bas, un niveau moyen, un niveau très élevé, dans tous les cas, Hachem va t'élever. C'est pourquoi c'est écrit Kol Hachem Bakoach Lefi Kocho Shel Kol Echad Ve'Echad. Très souvent, on entend des gens qui disent ou alors qui pensent que bon, la Torah c'est bien beau, mais il faut commencer lorsqu'on était très jeune, à l'âge de 5 ans, 6 ans. Ou alors, bon, je veux bien la Torah, mais je sens que j'ai fait tellement de fautes, je me suis tellement éloigné d'Hachem, que c'est trop difficile, c'est impossible à réparer. Ou alors, qu'est-ce que ma Torah vaut? Qu'est-ce que ma tefila vaut? Qu'est-ce que mon Shabbat vaut? Une fois qu'on m'avait dit, comment je ne mettais pas les tefilines, parce que je sentais, c'est comme si j'allais les rendre impurs à cause de ma avérot. Bon, mis à part que c'est faux parce que c'est écrit que « En divrei Torah, me kablin touma ». Les divrei Torah ne peuvent jamais être rendus impurs par quoi que ce soit. Mais c'est aussi faux parce que dans tous les cas, eh bien, les tefilines vont te sanctifier, vont t'élever, vont te purifier. Bon, il est évident qu'en effet, on peut faire une prise de conscience pour essayer d'éviter des avérot, parce qu'on va faire une mitzvah de tefilin ou de Shabbat le jour même, c'est sûr et certain. Mais dans tous les cas, la Torah, elle vient s'adapter à toi, Kol Hashem Bakor. Et cela pourquoi encore une fois? Parce que Hashem, il a créé de prime abord cette Torah et notre esprit, notre neshama, qui sont adaptés de façon parfaite, de façon adéquate. Alors, exactement, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire l'esprit et le neshama, ce n'est pas un objet qu'on peut mesurer, qu'on peut définir, qu'on voit en face de nous. Notre neshama, sûr et certain, tu ne la vois pas, c'est spirituel. Même notre esprit, je veux dire, même parce que bon, le cerveau, c'est uniquement c'est la matière du cerveau. Bon, c'est la matière qui va nous aider, n'est-ce pas, à comprendre, à souvenir, etc. Mais c'est quelque chose de moral et spirituel qui comprend et qui se souvient. Alors, on n'arrive pas à les connaître, à les définir, à les structurer. Donc, on ne peut pas savoir comment est-ce que c'est emboîté. Mais on doit avoir la Emouna, en nous par le Ramchal, qui nous dit qu'en effet, cette Torah et notre esprit sont emboîtés de façon parfaite, idéale, adéquate. Et c'est pourquoi être Ben Hurin, être un homme libre, eh bien, on est obligé de passer par la Torah. C'est impossible de trouver une harmonie sans passer par cette Torah. Alors, vous pouvez me poser la question que je connais certaines personnes. Avram Avinu, en effet, alors bon, c'est bien que tu aies posé cette question. Avram Avinu, en effet, sans la Torah, il a réussi à arriver à une perfection, à une harmonie vraiment exemplaire, de taille, c'est vrai. Mais là aussi dit le Midrash qu'Avram Avinu, il a étudié la Torah. C'est-à-dire que, tiens, c'est encore une preuve de ce que dit le Ramchal. A priori, de prime abord, eh bien, un être humain peut arriver à l'étude de la Torah, à toutes les mitzvot, même sans la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un tel rapport étroit entre notre esprit et notre neshama et la Torah. Parce que, à cause de ce que dit le Ramchal, qu'ils ont été créés avec les mêmes caractéristiques, ils sont comme emboîtés l'un dans l'autre, c'est que même sans recevoir ce livre de la Torah, on peut y arriver. Dit le Midrash, Avraham Avinu, Kiliotav, Limdoto, Torah. Eh bien, traduit, ça veut dire que ses reins lui ont enseigné la Torah. Entre parenthèses, eh bien, on a découvert dernièrement scientifiquement qu'il y a un grand rapport étroit entre le cerveau et les reins. Ce n'est pas par hasard que le Midrash nous dit, n'est-ce pas, que Kiliotav, ce sont ses reins qui lui ont enseigné la Torah. Mais bon, ça veut dire qu'on peut arriver, grâce à notre esprit humain, à notre neshama, à la Torah, même sans passer par la Torah. Mais il faut être Avraham Avinu pour cela, premièrement. Deuxièmement, ça c'était vrai uniquement avant Matan Torah. Comme l'ont fait Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Shvatim. Mais depuis Matan Torah, on doit absolument passer par cette Torah. Et c'est uniquement dans ces conditions-là qu'on peut arriver à une harmonie, à une liberté. Maintenant, si vous me posez la question, je connais certaines personnes qui n'ont pas de Torah, ou qui font très peu de Torah, et ils ont l'air vraiment des gens, on va dire, qui sont épanouis dans une harmonie extraordinaire, qui sont très très cool, qui sont très heureux, très sereins, qui ne sont pas tiraillés par leurs instincts. Ils ont l'air des hommes qui sont tout à fait libres et qui se maîtrisent, etc. Bon, tout d'abord, c'est rare. Deuxièmement, même s'il y a des cas comme ça, j'ai une type, non, j'en connais moi aussi, c'est vrai. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, eh bien, il y a autre chose qui se passe. C'est-à-dire que dans certains cas, eh bien, les forces de la neshama même, c'est comme si elle est anesthésiée. C'est-à-dire que une personne peut vivre la majorité de sa vie, même toute sa vie, sans utiliser, exploiter sa neshama. En effet, on peut agir avec le corps, surtout avec ce qu'on appelle nefesh, ainsi qu'au ruach, alors que neshama, qui est la partie la plus élevée, la plus spirituelle, eh bien, qui, elle, en effet, va nous aider à faire Torah mitzvot, eh bien, elle peut être bien souvent anesthésiée. On va la réveiller, la susciter de temps en temps, quand on fait tu vois le jour de Kippour, etc., dans certaines occasions. Et en général, elle est anesthésiée, elle est endormie. Alors donc, une personne peut s'imaginer qu'il vit dans un monde de liberté, un monde harmonieux. Mais c'est une utopie. Pourquoi c'est une utopie? Parce qu'on peut se rendre compte que même ces personnes-là, il y a des gens qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans l'harmonie, dans le bonheur, que ce soit dans la vie familiale ou alors avec les voisins, avec les camarades. Et tout d'un coup, un événement a fait qu'ils ont été transformés. Par exemple, un événement dramatique, la perte d'un proche parent, ou alors un événement dramatique dans le domaine universel, comme la Shoah, ou alors d'autres problèmes de la vie, une perte d'argent importante, ou alors la perte de son poste au travail, etc., qui ont déboussolé, qui ont déstabilisé ces personnes-là. Eh bien, tout d'un coup, ces personnes-là ont été transformées. Ce sont des autres personnes. Alors, où est l'harmonie? Où est la liberté? Où est la sérénité? Donc, c'était qu'une utopie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'était basé sur la réussite. La réussite dans les finances, dans la famille, dans la santé. Parce que si un certain, quelqu'un qui n'a aucun problème a priori, qui a une vie de famille est très réussie, qui a des affaires qui marchent bien, et qui a une santé de fer, alors évidemment qu'a priori, cette personne-là, il n'a pas tellement de raisons d'être tiraillé, d'être perturbé dans sa vie quotidienne. Et surtout s'il a un tempérament, on va dire qu'il est plutôt calme et serein, alors automatiquement, bon, il aura l'impression de vivre une vie tranquille et paisible. Mais dès qu'il va être affronté, assailli par les problèmes de la vie, et ça peut arriver après 50 ans, 60 ans de notre vie, et cet homme-là, il pourra tout d'un coup être transformé. Qu'est-ce qui va nous garantir? Est-ce qu'en effet tu vas tenir bon lorsque tu vas être ébranlé par les problèmes de la vie? C'est uniquement lorsque ta liberté, ta sérénité ne va pas dépendre uniquement de ta réussite financière, familiale, etc., mais surtout que tu es basé, tu es accroché, tu es ancré avec des critères de base qui sont spirituels, qui sont divins. Parce que c'est la force de la Torah. La Torah, elle est divine, elle est spirituelle. Et c'est pourquoi c'est ce qui a aidé des grands personnages, des grands de la Torah, de tenir bon, par exemple, dans la Shoah, pendant des années. Parce qu'ils étaient accrochés à la Torah. Ils étaient ancrés, n'est-ce pas, ils avaient des points d'ancrage qui étaient spirituels, qui étaient divins. Et là, c'est inébranlable. C'est inébranlable. Et ces hommes-là, même dans les périodes les plus difficiles, eh bien, ils peuvent être des hommes libres. On raconte que Rabbi Avraham Grudzinski, il a passé un des grands de la génération dernière, il a passé la Shoah. Eh bien, cet homme-là, il s'était travaillé pendant environ 2 ans de recevoir n'importe qui avec le sourire et avec une certaine joie. C'était un homme pas qui te recevait avec le sourire, avec une joie immense. Bon, il s'est travaillé pendant 2 années. Et plusieurs personnes ont témoigné que même dans la Shoah, cet homme-là avait conservé son sourire et sa joie de vivre. Imaginez-vous un peu. Parce qu'en effet, c'était une notion, c'était une idéologie qui avait dépassé les problèmes de la vie et donc qui lui ont permis de surmonter n'importe quel problème si dramatique de la génération. Et cela, c'est uniquement lorsque tu arrives, n'est-ce pas, à réaliser un travail, mais qui est toujours accroché à une divinité, à quelque chose qui est spirituel, qui est inébranlable. C'est là où tu peux être un homme libre, un homme qui ne dépend pas de la réussite matérielle. Il y a des gens qui sont, on dit, il a beaucoup d'assurance, il est sûr de lui. Ok, c'est bien beau. Mais il est sûr de lui parce qu'il a un compte en banque qui est bien garni, parce qu'il a une vie de famille très réussie, parce qu'il a une bonne santé. Mais imagine un peu que cet homme-là, n'est-ce pas, il fait faillite tout d'un coup. Eh bien, est-ce qu'il va être sûr de lui ou pas? Il y a des gens qui sont sûrs d'eux, il y a des chanteurs qui sont très sûrs d'eux. Mais imagine, n'est-ce pas, imagine qu'une fois il perd sa voix. Eh bien, va voir comment est-ce qu'il va réagir. Il y a des gens qui ont perdu leur talent, ou alors quelqu'un qui est un grand musicien, et une fois, n'est-ce pas, s'il se fait un défaut, n'est-ce pas, ou alors un problème au niveau de la main ou des doigts, et donc il va être handicapé, il ne pourra plus jouer de la musique, et bien des gens pareils, il y en a qui sont brisés pour toute la vie, qui sont déprimés, c'est terminé. Pourquoi? Parce que leur assurance et leur joie de vivre dépendaient uniquement d'une seule chose, de leur voix, de leurs doigts, de leur réussite matérielle, etc. Et là, n'est-ce pas, même dans ces conditions-là, cet homme-là, il peut être encore un homme qui est comme, qui est dépendant. Il dépend de sa réussite. Alors que la Torah nous dit, attention, Ben Khorim, tu dépends de rien du tout. Même un homme qui est handicapé, il peut être un grand dans la Torah. Même un homme qui est aveugle, il peut être un des Gdolé Israël qui dirige le monde. Comme la Gemara raconte, Rav Shet et Rav Yosef, d'Amorim qui étaient tous les deux aveugles. Ben, c'est nos grands maîtres qui peuvent diriger le monde en étant aveugles, en étant handicapés. Alors un dernier mot, pas parce que quand on arrive à Serpentine, c'est une notion qu'on a travaillé toute l'année, mais quand on arrive à Pessah, alors comme on l'a dit plusieurs fois, c'est l'occasion de travailler cette reroute, cette liberté, plus que jamais. C'est-à-dire qu'on peut toujours se rendre compte qu'en effet, la liberté, on peut l'acquérir dans la Torah. Michal, d'abord prendre conscience qu'en effet, c'est cette Torah, cette mitzvah qui va te donner, qui va t'occasionner, qui va te permettre d'acquérir cette liberté. Mais quand la fête de Pessah arrive, qui s'appelle Zman Chéroutenu, c'est-à-dire c'est le temps de notre liberté, eh bien c'est une occasion à jamais, pour toute l'année, pour être transformé en des hommes libres.